Je suis avec le coach de la team Betclic. Coach, un mot sur le match.
Les joueurs ont validé leur pari, le bon plan du soir est passé.
Eh oui, on vous sent touché là.
Ah, c'est les émotions, oui.
Tu as gagné ton pari sur l'app Betclic et tu veux profiter dès maintenant de ta victoire? Grâce au virement instantané Betclic, reçois tes gains sur ton compte bancaire en à peine quelques minutes. Disponible seulement sur Betclic. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Moi, je suis dogmatique. Tantin ou des aphorismes. Quelle forme de dogmatisme, l'aphorisme?
Eh ouais, l'arbitre, s'il avait fait ça, et puis nous, si on avait fait ça, et si un pigeon était venu chier sur le ballon au moment où Samson l'avait tapé, il aurait glissé son pied dessus.
Gilbert Bribois, il est là?
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Et oui, je suis là, bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit en direct, l'after l'émission, qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Daniel Riolo est là, salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Et Thibaut Leplat également, salut Thibaut.
Camarade, bonsoir.
L'événement ce soir dans l'after, c'est Karim Benzema en Arabie Saoudite. Il a signé, il a montré son nouveau maillot, il a souhaité à tous, il s'est souhaité la bienvenue. On va prendre le temps d'en parler ce soir parce que il faut se poser des questions quand même. On l'a pas encore fait dans l'after. Aller jouer dans un championnat mauvais pour le pognon, est-ce que vous le comprenez? Est-ce que la somme qu'il va toucher est indécente? On va en débattre tout à l'heure à 23h. Et puis, comme on a beaucoup d'after de 2h dans les jours qui viennent, on va également dans quelques jours organiser un grand débat sur la géopolitique de l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'ils ont la même stratégie que le Qatar? Est-ce que c'est différent? Comment ça fonctionne? C'est en fait assez différent. Je peux d'ores et déjà vous le dire. Et c'est intéressant. Décrypter, on le fera dans les jours qui viennent. D'ici là, et d'ici le débat Benzema de tout à l'heure, les infos PSG du jour à suivre. À 22h30, l'interview de Vincent Labrune dans l'équipe aujourd'hui. Il veut le milliard en droit télé pour la Ligue 1. Est-ce qu'il nous prend pour des gogos? Messieurs, je vous pose la question, vous y répondrez tout à l'heure. J'ai
déjà parlé de cette histoire de milliard il y a quelques années.
Oui, le milliard.
Tu sais que ça commence à dater cette histoire du milliard. C'était donc avant Covid, donc on est en train de parler de 2019, c'est ça le milliard? 2019, ouais, c'est ça.
Sans oublier l'actu du jour, le mercato également au programme d'ici minuit. Le 32-16 est ouvert pour tous ces sujets. Direct Studio sur nos applis RMC et RMC Sport qui est disponible, plus les comptes Instagram, Snapchat, Twitter, Instagram, c'est live de l'after. Et Roland Garros, Eric Salio, l'homme des Night Sessions.
Eric Salio, c'est encore démerdé pour se coucher tôt ce soir.
Salut Eric.
Salut à tous. Elle va être courte celle-là.
T'as pas envie de nous proposer un vrai match un soir, toi?
Je sais pas, j'imagine qu'ils ont Mansour Barami sous la main derrière pour faire une exhibition parce que là, ils vont en avoir. C'est terrible.
Non, mais
c'est
terrible. Dis-moi, Eric, c'est quand même assez choquant de voir que le 1 mondial colle une tartasse aussi énorme à, je sais pas, il est combien maintenant? Titi Pascal, 4 ou 5?
5.
Je trouve que le déséquilibre est assez effrayant.
Disons après, que peut-être que Titi Pass est dans un mauvais jour, non?
Non, non, il n'est pas dans un mauvais jour. Il se fait détruire.
Il n'a pas le jeu compatible pour Alcaraz, mais on se pose tous la question. Qu'est-ce que ça va donner contre Djokovic? Est-ce que Djokovic aura les armes pour contrer cette comète?
Oui, bon, on se posera la question à ce moment-là. Et puis après tout, là, pour le coup, ça m'embêtera pas trop s'il le détruit comme ça. La vérité.
1h33.
Mais les deux premiers sets en 1h6-2-6-1, c'est Salio vient au TC16 et c'est ce que je lui mets, quoi. Donc,
c'est du jamais vu.
Ah, c'est compliqué.
6-2-6-5.
Lui, il ne relève plus mes provocations.
J'ai quelques connaisseurs dans la rédac de RMC qui m'ont dit: ah, les gars, ce soir, il va falloir que vous alliez après minuit. Hein. Le match va être long.
Ah bon, qui t'a dit ça?
Ah non, je ne donne pas les noms.
Je ne balance pas. Je ne demande pas de balancer, je ne veux pas savoir les noms. Mais honnêtement, je ne pensais pas à une telle raclée, mais qui gagne en 3-7. Alcaraz, c'était couru d'avance.
Bon.
Eric Salio n'a pas pu te dire ça. Eric Salio, un connaisseur, il le savait. Il savait que ça serait.
Oui, on se demandait comment
ça serait à sens unique, peut-être pas autant.
Si allait contrer le. Allait changer de tactique, peut-être, mais en fait, il n'a pas d'armes. Alors là, il fait des petits coups d'éclat pour sauver un ou deux jeux, mais bon, c'est 1h33, quoi. 6-2, 6-1, 4-1, et ouais, c'est une night session féminine.
Il est abasourdi.
Ah oui, il est KO, mais ça peut t'arriver, Daniel, quand t'es KO. T'as pas de solution, tu sais plus quoi faire, t'as qu'une envie.
Non, moi ça m'arrive pas souvent, mais je vais essayer d'imaginer que ça puisse arriver.
Quand on a joué au début, tu me disais: oh non, mais je peux pas jouer contre toi,
je te respecte trop.
Pas très sympa de dire que c'est une night session féminine, je trouve.
Oui, c'est vrai que c'est pas très sympa, d'autant que la dernière était plutôt agréable à suivre.
Exactement.
C'est vrai. 4-2, allez.
D'ailleurs, le tennis applique l'égalité homme-femme. Je ne comprends pas pourquoi il y a beaucoup plus de night session masculine que féminine. Il faudra m'expliquer.
Gilbert, fais pas ton. Ton perdreau de l'année.
Voilà, tu fais un peu l'innocent, le naïf.
Bah écoutez.
Honnêtement, là, Gilbert, tu me déçois un peu.
Il y a égalité de prime, il doit y avoir égalité de night session.
Oui, mais là, il va pas y avoir égalité de gens pour regarder le match. Si tu fais trop de night session, ça va être un problème.
Bon, on fera ça dans l'after tennis un jour. Le PSG. Merci Eric, à tout à l'heure. Le PSG, on y va. Les infos du jour sont les suivantes. Info de Loïc Briley, qui suit le PSG parmi les reporters d'RMC. Galtier, c'est fini. Alors, il n'y a pas encore eu d'officialisation du club.
Oui, non, là, tu es dans la rubrique info, là, ou
non, mais
rubrique, c'est les choses qu'on sait depuis deux semaines. Parce que là,
très bien. Mais quand le factuel arrive, faut le relayer.
Ah oui.
Puisque c'est donc là, ces dernières heures, que Galtier a appris qu'il n'était plus l'entraîneur du PSG. Voilà.
Oui, c'était hier.
Voilà.
Pour être précis.
Luis Campos lui a annoncé officiellement son départ.
Voilà. Donc,
et Galtier, attention, on fait savoir, dans l'entourage de Galtier, que désormais on sera très vigilant sur l'aspect juridique de l'affaire. En gros, on veut l'oseille. C'est ce que ça veut dire.
Oui, de toute façon,
c'est la loi française, CDD.
La seule chose qui reste en suspens aujourd'hui, c'est effectivement le montant du chèque qu'il va prendre. Mais à la limite, ça, c'est pas très important. Ce qu'il y a peut-être de plus important à mettre en avant, c'est que c'est au moment où la négociation prendra fin et que donc ils vont se mettre d'accord sur le chèque qu'on apprendra l'identité du nouveau coach.
Ah, pas avant?
Ah ben non. Tu ne peux pas apprendre l'identité du nouveau coach si Galtier n'est pas officiellement viré avec le papier et le chèque.
Ah, tu peux pas l'annoncer, mais l'apprendre, on le saura.
Tu veux dire officiellement, Daniel. Voilà,
en tant que club, voilà. Tu peux pas le.
La présentation du nouveau coach sera faite quand Galtier sera passé chez Michelin à la compta.
Voilà.
À ce moment-là. Ça ne veut pas dire que, parallèlement aux négociations pour la rupture du contrat, Campos ne discute pas avec les candidats ou le coach qu'il a choisi pour faire avancer le projet et pour mettre en place le recrutement et la nouvelle équipe pour l'année prochaine. Évidemment qu'il discute avec des gens, mais il n'y aura pas d'officialisation, de présentation du nouveau coach avant qu'on signe le chèque à Christophe Galtier. Voilà.
D'ailleurs, ça fait penser que moi, la relation Galtier et El Khelaïfi, je ne sais pas si vous avez vu Succession. Vous avez vu cette magnifique série incroyable? Il y a deux personnages qui sont un duo extraordinaire.
C'est quoi cette série? Je ne connais pas.
C'est sur HBO, c'est un mélange entre Le Parrain et Dallas. C'est extraordinaire, c'est une série extraordinaire.
Succession.
Et il y a deux personnages comme ça, les gens qui l'ont vu vont reconnaître, c'est Greg et Tom. Et Greg, c'est le factotum de Tom, et Tom, c'est un peu l'idiot du village qui devient le grand chef. Et il a avec lui un espèce de cousin éloigné qui est un type qui fait toutes les bases-up et qui est un type complètement un espèce de gars qui est l'âme d'année en fait de ce gars-là. Et ça fait un duo assez marrant, et je trouve que Campos dans cette affaire-là, et notamment il lui demande Tom à Greg d'aller virer des gens, c'est-à-dire pour le tester, dire bon écoute tu vas, t'es promu, bravo, tu rentres dans la boîte, bon première mission tu vas virer 150 personnes. Et c'est un peu ça, quoi. Là, j'ai l'impression de voir. Bon, ben, nous, on va s'occuper du nouveau coach, puis toi, tu vas aller virer Galtier. Hein, puis après, tu vas assumer.
Oui, mais là, en l'occurrence,
c'est dommage que vous n'ayez pas vu, parce que c'est vraiment une excellente série.
Non, bah écoute, je suis passé à côté, mais maintenant, je vais regarder. Ouais. Mais en l'occurrence, quand
j'ai pas le temps, je travaille.
En l'occurrence, Campos s'occupe.
C'est quand je travaille pas.
S'occupe du nouveau coach. Il s'occupe du nouveau coach, puisque c'est lui qui a.
Nagelsmann, c'est lui.
Qui a ses dossiers. Bah, c'est lui. Oui. C'est-à-dire, je comprends pas ta question, en fait.
Ça s'est plutôt décidé à Doha, non? C'est plutôt que, j'ai pas
à Doha, Nasser Al Khelaïfi veut Thiago Motta, il paraît.
Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut dire sur la question, c'est qu'il y a des candidats qui ont été écartés. Luis Enrique n'est plus dedans. Qui en avait Xabi Alonso n'est plus dedans. Qui avait été mis aussi sur une liste. Pas short, Mourinho, ça n'existe plus, c'est terminé.
Ah, c'est important.
C'est Enrique.
C'est important. Déjà, je viens de le dire, t'es pas très attentif.
Pardon. Regardez sa série.
T'es dans succession, là, encore.
Dans succession.
Ouais. Luis Enrique, c'est fini. Xabi Alonso, c'est fini. De Zerbi était sur la liste. Mais il n'y est plus. Et donc là.
Donc, Thiago Motta est toujours.
Thiago Motta est toujours. Et qui en a dit, bah, donc Nagelsmann est sur la liste.
Ça fait une liste courte, là, quand même.
Non, il y a peut-être encore un ou deux noms, mais pas plus.
Bon, ouais, ça fait quand même une liste courte.
Ça fait,
rappelle-toi, quand Laurent Blanc est pris, il y a au moins 12 ou 13 personnes qui disent non avant qu'on en arrive à Laurent Blanc.
Ça fait un podium, mais un vrai podium, un podium des trois, pas un podium des 5.
Un podium de Louis des 5.
Non, j'aimerais bien réécouter.
Podium des 5 de Louis, on doit l'avoir. Hommage à Louis qu'on adore.
Donc voilà, donc il doit y avoir les trois noms encore sur la liste de Luis Campos, ouais.
Quand on parlait de Luis, c'était Luis Fernandez, pas Luis Campos. Oui. Ok, alors, ça, on va en débattre, hein, le 32-16 est ouvert. Il y a un truc, moi, qui m'interpelle. En France, on ne fait jamais ce que font les Allemands, par exemple. C'est vrai que Nagelsmann, en fait, il est toujours salarié du Bayern. C'est-à-dire qu'en fait, les Italiens aussi ont déjà fait ça. On ne te vire pas, on te paye. Et si jamais tu veux partir avant que tu aies une offre ailleurs, eh ben tu démissionnes, mon coco. Parce que c'est, tu vois, c'est genre un peu facile de dire bah tiens, tu prends ton oseille, tu prends ton année et machin, et puis 15 jours plus tard, tu signes dans un autre club.
Pochettino.
En France, on ne fait pas ça.
Oui, Pochettino, il est toujours salarié du PSG.
Aujourd'hui ?
Oui, bien sûr.
Ah, bah, ah pardon ?
Il est resté.
Pochettino, aujourd'hui, toujours salarié du PSG.
Pochettino, toujours salarié du PSG.
Donc il prend sa, son oseille.
C'est dans la presse. Hein,
Pardon, ça m'a échappé.
Ça m'a échappé également, ça.
Oui. Ça pourrait être le cas avec Galtier aussi.
Quel est l'avantage, en fait? Je comprends pas ce que.
Mais si, imagine, t'as un contrat de 3 ans.
Ouais.
Au bout d'un an, on veut se séparer de toi.
Ouais.
Le club veut plus de toi.
Ouais.
Donc toi, tu dis, bah, très bien, payez-moi les 2 ans que vous me devez. Ouais. Et là, tu dis, bah non. Tu restes salarié du club. Par contre, si tu veux aller ailleurs, il faudra démissionner.
Et attends, excuse-moi, Pochettino, il va s'engager avec un club. Il va pas rester sous contrat avec le PSG.
Ah oui, il va donc démissionner.
Ah, donc à ce moment-là, il sera obligé d'accord.
Et ça fait faire les économies au club.
Pour se libérer, il doit démissionner. Okay.
T'as compris le truc?
Oui, enfin, si la durée de contrat, elle est 2 ans, tu vas pas économiser grand-chose, hein, finalement, dans ton calcul.
Bah, une année de salaire, peut-être. Imagine Galtier trouve un club dans 3 semaines.
Ouais, je pense que Galtier va se reposer. Il a une année compliquée, je pense.
Bah, souvent, d'ailleurs, quand t'as un entraîneur qui te dit je prends une année sabbatique, bon. C'est que, tu vois, il y a un truc.
Très bien. Enfin, bon, en tout cas, bref, ouais. Voilà. Il y a ce podium, 3 entraîneurs et un choix qui ne devrait pas tarder à intervenir.
Donc attends, je résume. Aujourd'hui, on en est à. Il y a un courant Qatari et il y a un courant Luis Campos. Est-ce que ce courant Luis Campos est soutenu par Jorge Mendes? Est-ce qu'il y a un courant Qatari, un courant portugais?
Non, en fait, je ne crois pas que ce soit.
Un peu un, tu vois, un bras de fer, non, une lutte d'influence.
Je ne crois pas que ce soit forcément comme ça. Je crois que le directeur sportif, en l'occurrence Luis Campos, a les noms, a fait des études, a préparé les dossiers des différents candidats qui sont étudiés. C'est lui qui est allé à Doha pour défendre et son choix prioritaire et en gros répondre aux attentes des Qataris qui veulent un coach d'une autre dimension que Galtier. Il a proposé les noms. Effectivement, il y aura une concertation. Mota a des avantages, Nagelsmann en a d'autres. Et après, est-ce que le choix final sera fait entre Campos et Doha? Est-ce qu'ils vont s'entendre ou est-ce que un imposera l'idée à l'autre? En tout cas, pour ce qui est du choix des 3 derniers là qui restent. Les trois sont dans les petits papiers de Campos.
Campos n'est pas en position de force pour imposer un coach à l'heure actuelle, parce que la Galtier s'est avéré quand même plutôt un fiasco, si je puis dire, un fiasco avec un titre à la fin, mais une saison vraiment dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle était quand même plutôt un échec. Donc je pense qu'en interne, il est moins en position de force que son arrivée où il a pu maintenir et proposer un coach.
Je pense que sur ce nom, effectivement, il y a eu erreur, on est tous d'accord. Les trois qui sont encore sur la liste là, on parle de 3 vrais coachs, de 3 pointures internationales. Alors on va me dire oui, Mota, pointure internationale, il vient de Bologne,
pointure italienne, on va dire pour
meilleur entraîneur du mois de février.
Bon. Ouais, il a pas encore d'expérience au niveau, mais si tu prends les différentes notes que tu peux lui mettre sur expérience de joueur, expérience d'entraîneur international, il y en a pas. Expérience de joueur, là en l'occurrence c'est beaucoup plus élevé, mais sur différents critères, il va en remplir quelques-uns. C'est quand même maintenant un entraîneur qui en Italie a une vraie cote et est demandé par pas mal de grands clubs.
Thiago Motta, c'est pas un choix sportif.
Tu sais, quand tu choisis un entraîneur comme ça, genre, c'est pas juste au pif quand même. Tu fais des études sur le jeu qui est pratiqué, sur qu'est-ce que le mec met en place. Tu regardes déjà. Regarde, quand Pablo Longoria t'explique que le coach qu'il veut pour l'OM doit répondre à certaines considérations en termes de jeu. Il parlait hier d'un coach, je sais pas quel qualificatif il avait employé. Il voulait un coach un peu rock'n'roll pour que ça mette le feu, on va dire, au Vélodrome. Donc ça veut dire que Pablo Longoria étudie les possibilités et qui dit je veux qu'il pratique ce jeu-là.
Une fois que l'entraîneur a choisi, on donne les raisons pour lesquelles on l'a choisi.
Non, je pense que là,
la force de Longoria, c'est qu'il dit avant, il donne ses critères. Ensuite, tu peux examiner ton choix, regarde.
Mais je pense qu'au PSG, si l'année dernière il y a eu une erreur sur le choix, parce que là visiblement j'ai pas trop compris quels étaient les critères pour prendre Galtier, là de ce que je sais cette année, on a envie d'un entraîneur qui va réellement imposer, une marque en termes de jeu. C'est, je pense, un entraîneur qui aura des idées très claires.
Comme on l'a dit pour
Tuchel,
comme on l'a dit pour Pochettino, qui était alors présenté ça, comme le nouveau Bielsa.
Alors ça, c'est un autre aspect. Mais je te signale quand même que Tuchel a imprimé quelque chose quand il est arrivé.
Comme Emery
ça
aussi.
Ça n'a pas duré. Emery a essayé, aussi, il a été pareil. Rapidement mangé par les joueurs. Donc, en fait, quel va être le problème? C'est celui qu'on évoque très souvent.
Il va se passer la même chose, hein, je le dis. Bah, il ne se passera pas la même chose.
Tout dépend de qui y aura dans le vestiaire.
Tant que tu ne fais pas un bilan sérieux de ce qui se passe au Paris Saint-Germain, de la gestion sportive du Paris Saint-Germain, de la manière dont s'est passée cette saison, du fond que tu as touché cette saison, tant que tu ne fais pas un audit sérieux de ça, que tu assumes
pas. Et qui te dit qu'il n'est pas fait?
Ben, il n'est pas fait publiquement, donc à quoi il sert?
Mais pourquoi il faudrait qu'il soit fait publiquement?
Parce que ça concerne pas que 10 personnes, le Paris Saint-Germain, ça concerne des millions de personnes.
À partir du moment
qui suivent.
Ce serait déjà intéressant,
c'est ce que fait Longoria. Longoria l'a fait hier, donc.
Et c'est parce que Longoria décide de parler publiquement que d'abord.
Non, mais en termes d'intelligence et en termes de gestion, je pense que Longoria fait ses preuves, au moins, ces deux dernières saisons.
Thibaut, qui te dit que dans 15 jours, ça sera pas fait?
Ah bon, on aura l'interview de Nasser dans le Parisien qui veut nous expliquer que c'est la fin du bling-bling.
Qui te dit que dans 15 jours, tu n'auras pas une personne du club pour t'expliquer pourquoi on a choisi cet entraîneur, pourquoi on va renouveler profondément l'effectif? Quels sont les joueurs qui vont arriver?
L'exercice de transparence qui a été fait par Longoria. Je sais que j'ai été très critique cette saison sur l'exercice de transparence qu'a fait Longoria, à savoir de se mettre devant 25 journalistes sans les questions préparées pendant une heure et demie et vous pouviez poser toutes les questions que vous voulez. Ouais. Le jour où ça arrive au Paris Saint-Germain, là, je me lève en premier et j'applaudis.
Moi, ce qui va m'importer.
Et pas une interview faite par.
Cet exercice de transparence qui, à mon sens, est quand même, peut également être un petit peu factice. Ce qui va m'importer, moi, c'est de savoir.
Une heure et demie devant 25 journalistes, ça se voit.
Ce qui va m'importer, si tu permets, c'est de savoir qui va venir, comment ils vont sortir les joueurs qui sont des points morts dans le vestiaire depuis des années maintenant, et quand. On t'annonce qu'il va y avoir 7 à 8 nouveaux joueurs. Je pense que le renouvellement du vestiaire, il va quand même intervenir. Donc déjà, si tu as un renouvellement du vestiaire.
Qui incarne ça, Daniel? Qui le dit?
Mais t'es pressé?
Ah bah oui, je suis pressé. Ça commence.
Je ne présage pas que ça ne va pas arriver.
Dans un instant, Gabriel avec nous au 32-16 et puis on va parler de Luis Campos parce que il semble quand même conforté dans tout ce qui se passe là. Tu le diras, Daniel, ce que tu en penses.
Il l'est.
Dans un instant, le débat continue et puis ensuite on débattra de l'interview de Vincent Labrune et du milliard qu'il promet, ce qu'il faut le croire, sans oublier le grand débat autour de Benzema en Arabie Saoudite tout à l'heure à 23h. À tout de suite dans l'after.
Je suis avec le coach de la team Betclic. Coach, un mot sur le match.
Les joueurs ont validé leur pari, le bon plan du soir est passé.
Eh oui, on vous sent touché là.
Ah, c'est les émotions, oui.
Tu as gagné ton pari sur l'app Betclic et tu veux profiter dès maintenant de ta victoire? Grâce au virement instantané Betclic, reçois tes gains sur ton compte bancaire en à peine quelques minutes. Disponible seulement sur Betclic. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
C'est 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h20, Daniel Riolo est là, tout comme Thibault Leplat. Eric, salut, un petit point de tennis. Alcaraz, Tsitsipas, Eric, Roland Garros.
C'est un moment important puisque Tsitsipas est en train de mettre la tête hors de l'eau. 6-2, 6-1, 5-3 Alcaraz, mais 15-40 sur service du jeune espagnol. Donc deux balles pour revenir à 4-5. Oh là là, c'est pas vrai, il a totalement boisé son verre. Là, il a failli aller dans le périphérique, la balle.
Ça lui arrive, ça, Tsitsipas, parfois.
C'est dommage parce que le public n'attend qu'une chose, c'est le débreak pour vraiment s'enflammer.
Bah, il en a une occasion pour le faire, là.
Voilà, il y a 30-40. Gilbert, on la suit.
Ouais.
Oui, je sais que t'adores le tennis. Merci Daniel pour.
Cette prise en otage de l'antenne est un scandale.
Il prend bien.
30-40.
Il utilise ses
Non, mais vous allez peut-être entendre une ovation montée des gradins du châtrier. 30-40. On va voir ce qu'il va faire Stéphanos. Il a du mal à passer ses premières.
La première n'est pas passée déjà.
Si, elle était lette. Elle était dans le carré. Donc, encore deux balles. Deux balles de service pour Carlos Alcaraz. 1h50 à la pendule. On va peut-être quand même dépasser les deux heures. Je sais pas. Il vise le revers de Tsitsipas. Service volé amorti rétro. Les fautes. C'est des breaks. Je suis sûr de moi. Oui, c'est confirmé par la trace de Tsitsipas qui va déjà chercher sa serviette. Confirmé par l'arbitre. Des breaks.
Ah, voilà. T'as peut-être pas de coucher si tôt, toi.
Mais oui, la remontada grecque.
Ah, tout à l'heure, Eric.
La remonte à 10.
Avant d'accueillir Gabriel, autre info du jour importante concernant Paris, c'est donc le bras de fer qui oppose le PSG à l'Inter concernant Marcus Thuram. Marcus Thuram est en fin de contrat, il est donc libre et Paris veut le prendre. Ce qui ne remettrait pas en cause l'arrivée d'un autre grand numéro 9 type Osimhen. Hein, voilà. Donc c'est important de le préciser. Le PSG qui a également expliqué gentiment à Hugo Ekitike que si jamais il voulait aller voir ailleurs, ça ne dérangerait pas. Bon, ils ont quand même payé 34 millions pour le faire venir.
Donc Neymar est également sur la liste des sorties, à condition de trouver quelqu'un. Il y a quelques clubs qui, semble-t-il, seraient un peu intéressés. En tout cas, le but, c'est de le sortir. Messi, c'est terminé. Qui nous avons d'autres encore ? Verratti, on ne s'opposera pas à un départ, même si d'un point de vue de l'oseille, c'est un peu compliqué parce qu'il y a une prolongation de contrat, mais on ne s'opposera pas à son départ non plus. Et en gros, oui, c'est au moins 7-8 nouveaux joueurs, donc c'est un profond renouvellement quand même qui se prépare, avec la volonté première, c'est de construire une équipe. Je pense que ce message-là, qui a été répété, rabâché par nous, par énormément de supporters toute l'année, de ne plus vouloir mettre en premier une politique de star et de business avant le jeu, il y a une volonté de changer là-dessus. Alors c'est vrai que ce sont des promesses qui ont été également faites l'année dernière et qui n'ont pas été tenues. Pour cette année, bon, l'année dernière, l'intention était déjà de sortir Neymar. Ça n'a pas été possible, mais c'était déjà l'intention. Cette année, c'est de nouveau. Alors, on peut espérer que si ça n'a pas marché la première fois, ça peut sur la deuxième fois marcher.
Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où c'est pas assumé publiquement dans une condition où vraiment de responsabilité, c'est-à-dire avec des échanges, avec éventuellement des journalistes ou avec des gens qui seraient capables de donner le change, je pense que ce sont des vœux pieux qui vont tenir un mois comme chaque saison. Donc, tant que c'est pas assumé clairement, qu'il n'y a pas un virage qui est très clair.
Et comment tu veux que ce soit assumé?
Par son président, par son directeur sportif, ou à mon avis plutôt le président, assumer les erreurs.
On verra.
Tu peux pas faire de nouveau si t'assumes pas les erreurs.
Déjà, on va voir quel genre d'interview.
Donc je répète toujours la même chose.
Déjà, on va voir quelle interview il va donner. Je sais que je suis assez sceptique sur la qualité de l'interview, surtout que son choix de média est toujours un petit peu.
Mais je parle de médias publics. Le média public, dans le sens, il faut que tous les médias soient là.
On sait qu'il va.
Comme ce qu'a fait Longoré, il a fait très bien.
Choisir. Absolument. On sait que a priori, c'est pas le genre de truc qu'il aime faire. Et en plus, je crois pas qu'il ait la connaissance du foot et la capacité à évoquer tous ces sujets.
Ah oui, c'est sûr qu'il est loin de Longoria.
Ça pose un problème.
Ça c'est clair. Maintenant, on peut également se dire que cette année, ils sont tombés tellement bas. Et croire qu'il peut y avoir une prise de conscience pour qu'enfin quelque chose change.
Ils envoient toutes les semaines, 3-4 fois par semaine, un entraîneur devant toute la presse pour répondre à des questions, dans des situations qui sont parfois délicates, mais eux, ils répondent jamais.
Bah, ça, Nasser,
on verra au mois de juin. En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est ce qui se prépare en coulisses.
On verra déjà, si son surnom déjà, va donner déjà, Stéphane Guy, Nasser à rien, et voilà.
Moi, je commente ce que tu dis.
Tu peux déjà commenter ce que je dis, si t'as envie.
Gabriel, bonsoir.
Oui, bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Thibault.
Salut.
Quand on entend toutes ces précisions, il y a une qu'il faut qu'on ajoute quand même, c'est que dans tout ce qui se trame, on constate que Luis Campos, parce que certains disaient, ouais, il pourrait peut-être disparaître du paysage, c'est pas la tendance, hein, par ailleurs. Voilà. Donc Gabriel, quand on entend tout ça, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, ce soir?
Moi, j'ai envie de rire, en fait. Je vous annonce déjà, on va vivre le même scénario qu'on vit depuis 5 ans, et on va se faire sortir en février, et puis c'est tout. Déjà, le problème du coach, on va commencer par ça, en fait. Alors, à Doha, ils veulent Nagelsmann.
Nasser, Thiago Motta.
Non, tu vois ce que tu dis. Déjà, ce que tu dis est complètement faux, déjà. Ce que tu dis est complètement faux.
Bah non, puisque Nasser El Khelaifi voulait lui Thiago Motta.
Non, non, mais déjà, tu viens de dire le contraire dans ta phrase d'avant, déjà.
Quand tu dis à Doha, dis Nasser El Khelaifi, parce que lui, il obéit aux ordres.
Quand moi, je dis, oui, mais je suis d'accord avec vous, mais n'oubliez pas que Tourelle, c'est Doha qui l'a choisi.
Oui, d'accord.
Mais à la base, a priori, alors, j'ai pas les mêmes infos que vous. Moi, je me contente de ce que je peux lire. Mais a priori, Doha, c'était en gros, plus ou moins, Nagelsmann avec une possible doublette Thierry Henry. Nasser El Khelaifi, de ce qui ressortait, lui, il voulait Thiago Motta, et Campos, lui, il veut Luis Enrique. Alors déjà, on a les trois têtes du club, en fait, il n'y en a pas un déjà qui veut le même entraîneur.
Et en fait, Campos, ce que tu dis,
ça a évolué.
Ce que tu dis est faux, déjà.
Tu l'as entendu tout à l'heure.
Ce que tu dis
Daniel,
est faux.
Daniel, je te dis pas le contraire. Moi, je reste sur ce que j'ai lu. Alors, si ça a évolué entre temps.
Mais là, on a donné les infos.
En fait, tu sais que dans une situation comme celle du PSG ou de n'importe quel club, même pour l'OM, ça vaut pour tous les clubs.
Ce qui se dit,
la situation d'avril, de mi-avril, de fin avril, de mi-mai.
En fait, ce sont des discussions.
Tu discutes avec les gens et puis peut-être que le PSG veut un coach qui est en contrat, peut-être un autre. Thiago Motta par exemple est sous contrat. Bon, il a envie évidemment de changer de club et d'aller vers un club plus important. Mais peut-être que Thiago Motta il attend parce que la Juve et la place peut se libérer et ça l'intéresse. Peut-être que l'Inter, Inzaghi après la finale de la Ligue des Champions il va s'en aller, donc il attend aussi. Donc en fait tout ça tu dois le prendre en considération.
Donc tu ne peux pas rester figé. Oui, je comprends ce que tu veux dire.
Donc ce sont des discussions. Donc moi ce que je te dis aujourd'hui c'est que là au moment où on se parle. Que ce soit au Qatar, Nasser et Campos, ils sont sur la même longueur d'onde. Il y a trois noms, c'est les trois finalistes pour le poste d'entraîneur. Il y a la volonté de changer 7 à 8 joueurs. Je t'ai dit pour Neymar, je t'ai dit pour les joueurs. Donc aujourd'hui, la vérité c'est celle-là. Mais dans les coachs qui sont sur ce podium de fin là, il y en a qui Nagelsmann par exemple est complètement libre encore. Bon, il est sous contrat avec le Bayern mais il s'en ira. L'histoire de Thierry Henry, moi je te dis pas que c'est complètement vrai par exemple. Moi j'ai pas ces échos là. J'ai pas les échos que Thierry Henry viendrait avec Nagelsmann par exemple.
T'es sûrement mieux informé que nous qui sommes de simples suiveurs.
Moi ça là-dessus, moi j'ai pas par exemple, moi j'ai pas le truc de Thierry Henry, je l'ai pas par exemple. Alors peut-être que ce sera ça, mais moi j'ai pas ça, donc on verra.
Je disais Jérôme Bretagne aussi.
Il disait quoi ?
La même chose.
Qu'il n'y avait pas Thierry Henry ?
Oui.
Ouais. Moi, j'ai pas cette histoire.
Ils ont discuté entre eux et puis voilà.
Cette histoire de Thierry Henry, moi, je l'ai pas. Cette histoire de Nagelsmann qui est dans les trois, oui. Motta est dans les trois, oui. Plus un. Voilà, c'est ça, je peux te dire. Donc Luis Enrique, Xabi Alonso, Mourinho, tu peux enlever. Après, si au dernier moment, Nagelsmann dit non, je veux pas venir parce qu'il y a ça qui me plaît pas, et Thiago Motta dit ah oui, j'étais sur la shortlist, mais finalement je vais à la U, et ben peut-être un de ceux qui n'était plus du tout sur la liste
va revenir.
Mais là, au moment où je te parle, la volonté des décideurs, elle est sur les deux noms plus un que je t'ai cité. Voilà.
Tiens, Gabriel, il y a Louis qui veut intervenir sur cette histoire.
Dans le podium, c'est quoi ? C'est dans les trois ou dans les cinq ?
Voilà. Merci Louis.
Non mais après moi j'ai un autre souci c'est que avec le directeur sportif j'ai rien contre le travail d'Obis Campos enfin hein, et encore que bon j'attends de voir encore parce que je reste mitigé sur cette saison là. On sait pas qui est l'entraîneur mais on achète déjà des joueurs. Donc moi ça enfin alors j'ai enfin je sais pas qui va être l'entraîneur hein mais du coup ces joueurs il les choisit comment parce que s'il prend des joueurs que dont l'entraîneur n'a pas besoin ou qui ne rentrent pas dans le schéma de jeu de l'entraîneur, on va en faire quoi en fait de ces joueurs là?
Bah oui, c'est ce qu'on disait hier soir.
Et c'est pour ça que je dis que enfin moi personnellement enfin voilà je suis parisien depuis très longtemps depuis un peu avant l'ère Canal. J'attends de voir en fait, je m'emballe plus maintenant voilà, j'attends de voir. Effectivement, je comprends que les discussions pour remettre Neymar de côté, c'est compliqué, c'est difficile de dire plus.
Après les joueurs qui ont été pris jusque là, alors d'abord, rien ne dit que même si l'officialisation interviendra après que Galtier se soit barré, rien ne dit qu'il n'y a pas déjà des discussions. Et les joueurs qui ont été pris jusque-là entrent à peu près dans n'importe quel système. Ce sont plutôt des mecs assez neutres de ce côté-là. C'est plus pour les autres où il y a des contacts et où il y aura discussion avec le coach choisi.
Des enjeux de pouvoir à l'intérieur de la direction, c'est-à-dire que quand tu fais venir des joueurs, c'est toi qui les as fait venir, c'est pas pareil. Surtout quand ils ont le même agent. C'est le cas de Jorge Mendes, dans le cas d'Ugarte et d'Asensio. Il y a des enjeux de pouvoir à l'intérieur de la direction sportive, à l'intérieur du club, à l'intérieur du vestiaire, et que imposer des joueurs aussi avant qu'un nouvel entraîneur arrive, c'est une manière aussi de marquer le territoire, quoi.
Absolument.
C'est aussi une manière de dire voilà, ces joueurs-là, ils sont à moi. Donc, parce que l'entraîneur va venir avec ses propres joueurs, avec ses propres, il va certainement avoir deux, trois recrues qui vont lui être accordées. Donc tout ça, c'est pas qu'un enjeu sportif. Gabriel, et c'est un peu le problème de ce club, c'est-à-dire qu'au final, le football, bon, c'est bien.
Tu sais, sur cette histoire de joueurs qui viennent et tout, des fois on dit
C'est pas des cracks, quoi. Il a pas signé plutôt, des cracks. Voilà. Il aurait pu attendre un an, il aurait signé le même type de joueur, quoi. Ça, je veux dire.
Le mot de la fin, Daniel.
Et je pense que les cracks, s'il doit en arriver, des joueurs un petit peu, visiblement, grosse star, non, mais des joueurs un petit peu plus forts que ceux qui sont arrivés, s'ils doivent arriver, ils viendront justement.
Le Real recrute Jude Bellingham,
en discussion et en accord avec l'entraîneur. Maintenant, il se peut aussi, et ça arrive, que l'entraîneur vienne avec des joueurs avec lesquels il a envie de bosser et ça se passe pas bien et les joueurs sont pas bons.
Donc, oui, bien l'idée, sûr, il y a l'idée moins de chances qu'ils soient pas bons, le fait qu'ils viennent avec cet entraîneur-là. C'est, bah,
enfin,
on en a vu
des joueurs qui sont chouchous d'entraîneur et qui se déplacent avec l'entraîneur, les mecs les fait jouer, le et c'est des mecs qui sont pas bons au final.
À ce niveau-là, c'est rare. Et c'est beaucoup plus rare que les joueurs qui sont fait venir par le président ou le directeur sportif.
Je remercie Gabriel,
l'entraîneur n'en voulait pas.
Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de
règles. Merci Gabriel au 32-16. Alors juste sur Pochettino, effectivement, si, ce que tu dis, se confirme, c'est-à-dire qu'il était toujours salarié du PSG donc jusqu'en juin 2023 puisque son contrat s'arrêtait. C'est-à-dire que effectivement il s'est fait une petite année tranquille à 1 100 000 euros brut par mois sur la plage.
Ah, il est bien pépère.
Voilà. Et peut-être pour ça qu'il a.
Et là maintenant il se barre et il va à Chelsea.
Voilà. Dans un instant on revient avec.
Où il gère un groupe de 50 joueurs.
Ouais. Mais écoute. Comme bientôt Strasbourg
sera demain et après
Chelsea sera bientôt la filiale de Strasbourg, donc on va s'arranger. Dans un instant, l'interview de Vincent Labrune, il veut le milliard. Est-ce qu'il nous prend pour des gogos? On en parle dans quelques instants avec vous au 32-16.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h36, Daniel Riolo et là, Thibault Leplat. Et là, avant de parler de Labrune, j'ai une petite info PSG, une dernière petite info anecdotique PSG, mais enfin qui fait beaucoup réagir. À Verneuil-sur-Seine. C'est où c'est Verneuil-sur-Seine? C'est dans les Yvelines, c'est une petite ville qui est à 14 km du Camp des Loges. Donc c'est quand même la zone Paris, quoi. Tu vois, les Yvelines, c'est très PSG, Camp des Loges, Saint-Germain-en-Laye, tout. Et bien Verneuil-sur-Seine, la mairie, qui a des liens avec le PSG d'ailleurs, a choisi de donner le nom de son stade à un joueur de l'OM. Et oui, il va s'appeler le stade Matteo Guendouzi.
Ça, c'est complètement fou, quand même.
À 14 km du Camp des Loges, le stade Matteo Guendouzi.
Avec des jeunes, parce que lui, il vient de là-bas, mais avec là-bas, des jeunes du PSG qui vont s'entraîner là-bas.
Qui jouent là-bas? Ouais. Au stade, le PSG va donc jouer au stade Matteo Guendouzi.
Enfin, certains jeunes, pas le PSG, jeunes. Quoi.
Et oui, mais il a passé par le club, il est passé par Paris.
Peut-être qu'ils ont quand même attendu la fin de la saison en se disant, bon, tu sais, Guendouzi va sans doute quitter l'OM.
Ils ne sont plus à l'OM, mais bon.
Ils n'ont pas annoncé ça il y a trois semaines.
L'initiative est moyenne.
Il portait pas sur la photo, la fameuse photo pendant le mondial avec les clubs formateurs.
Bien sûr.
Et Guendouzi.
Ah oui, il voulait pas se poser avec le maillot du PSG.
Le seul absent de la photo. Bon, il voulait pas poser avec le maillot du PSG, ce que je trouvais personnellement assez ridicule, mais bon.
Ah, c'était pour lui éviter les emmerdes. Je pense que là.
Oui. Encore une fois, on revient au thème d'hier.
Oui, bon. Alors, passons maintenant à Vincent Labrune, les gars. On a même un petit jingle, un nouveau jingle, Vincent Labrune, que l'on vous propose en exclusivité mondiale tout de suite.
Tout cet argent que vous allez gagner, vous allez en faire quoi? Vous allez les placer?
Dans la popoche. Oui, les sociaux, la meilleure.
Non, ça intéresse les gens. Attendez.
Sketch inconnu, bien connu.
Excellent.
Le milliard.
Surtout dans la popoche.
Et la popoche, exactement. Donc Vincent Labrune.
Bah, ils sont pas encore dans la popoche. Hein,
là, il a pas encore tourné la roue là pour avoir le milliard.
Donc l'interview dans l'équipe qu'on attendait. Donc cirage noir ou marron?
Alors permettez-moi de rappeler quelques. Ce que tu dis, le factuel d'abord.
Qui a fait l'interview déjà? Est-ce que tu peux?
Étienne Moiti, non? Qui fait toutes les interviews de Vincent?
C'est étonnant ça.
Journaliste de l'équipe qu'on salue.
Oui, enfin, c'est le seul à qui Vincent Labrune parle en fait.
Enfin, parle en on.
Et en off.
Oh, il a toujours parlé à beaucoup de journalistes, Vincent Labrune.
En l'occurrence, quand il a un truc à faire passer, il choisit toujours le même. Comme ça, il est sûr, parce que c'est également un journaliste qui animait des conventions où Vincent Labrune parle.
Étonnant, non, parce qu'on connaît, on commence à connaître un peu le.
Par quoi devrait-on être encore étonné?
Oui, alors on n'est pas étonné. Étonné n'est pas le bon mot. Alors trouve-moi le bon mot, s'il te plaît.
Consterné, ça va?
Voilà, consterné, je préfère.
Bon, arrivons-en à cette interview. Avant de parler du milliard, il s'est félicité parce qu'il dit cette année, il y a quand même eu beaucoup moins d'incidents que l'an dernier. Là-dessus, il n'a pas tort, parce que l'an dernier, rappelez-vous, les jets de bouteilles, les supporters.
Il n'a pas tort, surtout dans l'interview quand même.
Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'incident, parce qu'il y en a quand même eu des majeurs là, notamment ce week-end, hein, entre ouais. Bordeaux et Ajaccio notamment, mais il s'est félicité. Il a reparlé de la fameuse opération de lutte contre l'homophobie qui, pour lui, est un succès, parce qu'il dit finalement il y a moins de 1% des joueurs qui ont refusé, et il dit et l'année prochaine on sera intransigeant avec les joueurs qui refusent. Alors qu'est-ce que ça veut dire ?
Cette question, je l'ai trouvé plutôt pas mal.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont sanctionner les joueurs ? C'est pas des suspensions, j'en sais rien, je sais pas.
Vincent Labrune, il fera un très bon consultant. Pour commenter l'actualité, ça en fait pas de lui un président visionnaire. Il commente, il a commenté l'actualité de la Ligue 1. Je reprendrai.
Ce que je veux dire, c'est qu'il a pas parlé que pognon. Il a aussi dit qu'il soutenait Philippe Diallo. C'est assez marrant parce qu'il a dit. Il a dit Philippe Diallo a choisi un super directeur général, alors qu'on sait très bien que c'est lui, Vincent Labrune, qui était à la manœuvre pour que ce soit lui qui soit choisi.
Vincent Labrune veut que ce soit Philippe Diallo, comme ça, ça deviendra son pantin et il pourra tout contrôler, puisque Vincent Labrune. Son envie, c'est de contrôler de A à Z le football français. Donc, c'est d'avoir un pantin.
En même temps, il a un poste où il a du pouvoir.
Enfin, logiquement et historiquement, le président de la Fédé a toujours été un petit peu au-dessus du président de la Ligue. Hein.
Poste des règlements, donc.
Rappelez-vous les conflits entre Le Graët et Thiriez à l'époque.
Il y en a un qui a le droit et l'autre qui a l'oseille.
Pouvait pas se blairer.
Voilà. Donc, là, aujourd'hui, lui, il veut inverser le rapport de force. Et il veut être lui le patron et avoir un pantin qui dirige la 3F et des présidents de club qui lui mangent dans la main ou qui sont ses laquais, type Jean-Pierre Caillot, Laurent Nicolin, enfin tous les présidents qui lui mangent dans la main. Voilà. Et lui ne répond qu'à une seule personne, Nasser Al-Khelaïfi, qui est son grand chef. Dès qu'il y a une question d'oseille, il lui passe un coup de fil. Qu'est-ce qu'on fait, Nasser ? On fait comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça.
Eric Salio nous appelle, il y a une balle de match.
La numéro 4 pour Carlos Alcaraz. On est dans le tie-break du 3ème. 6 points à 3, c'est Tsitsipas qui est au service. Il a serré le jeu dans le tie-break Carlos Alcaraz parce qu'il y avait danger. Il y avait danger d'un joueur qui commençait à prendre feu, un public aussi qui était beaucoup plus investi. Et il a serré le jeu. Voilà, l'échange s'installe et il part à la faute. Non, elle est bonne. Ouh là là, il a pris la ligne, Tsitsipas. Il est chanceux. Et Carlos Alcaraz n'a pas pu remettre la balle et l'échoue dans le filet. Donc, 4 balles de match sauvées par un courageux grec.
Problème, c'est qu'il en reste encore 2 là.
Ouais, tout à l'heure, il était quand même à 6-2, 6-1, 5-2. Je ne sais pas si vous vous souvenez,
T'avais préparé ton sac, t'étais prêt à rentrer chez toi.
Oui, et puis j'allais clouter le cercueil, moi c'était fini. Mais non, il s'est accroché, je dis chapeau, Ace. 5e balle de match sauvée. Attention, cette fois-ci, c'est Carlos Alcaraz qui va servir. Je serai lui.
Bon, on choisit la suivante, mais après.
S'il y a 6-6, c'est là que ça va devenir encore plus chaud.
Après, il y a un petit changement, Gilbert, tu sais comment ça marche, tu sais.
Oui, le changement, on va pas.
Non, le changement, on le fera pas, le changement.
Non. Allez. Allez. Donc, si non, avec Anthony, finir, là, on a du nez, il sert à gauche, Daniel. Il a un gros kick,
ouais,
tu sais.
Il va lui mettre.
Il va lui toucher la zone de revers.
C'est fini.
Et peut-être même service volé. Moi, c'est ce que je ferai. Et comme c'est un garçon qui tactiquement se trompe rarement, on va voir ça. Allez. Balle de match numéro 5. Il sert le revers de Tsitsipas et derrière, service demi-volée et volée gagnante. C'est fini. C'est du grand art. Chapeau, Carlos Alcaraz. Démonstration 6-2, 6-1, 7-6 en 2h12. Vendredi. Gardez votre vendredi. J'ai pas encore l'horaire. Tsitsipas.
Premier ou deuxième
Alcaraz,
match
Alcaraz, Djokovic. Deuxième match probable parce que c'est mieux pour France Télévisions.
Vendredi, de deuxième match.
Parce qu'il faut que je libère mon après-midi, tu comprends.
Bon, écoute, tu appelles les gens de France Télé, ils vont t'arranger le coup.
Ouais, non, faut que je libère surtout pour me trouver des places, c'est ça, ce France Télé. C'est pas France Télé qui m'a invité. Hein.
Ouais. Voilà, 2h12, je sais plus l'heure exacte, mais. Et Marion Bartoli arrive, on dirait une princesse. Elle a une cape rose magnifique. Elle va procéder à l'interview d'après match. On s'est régalé, c'était sympa.
Je sais pas quel genre de princesse t'avais quand t'étais petit, mais bon.
Merci Eric, bonne soirée. Allez, revenons à la Brune. Donc je continue. Maintenant, on va parler aux Aïe. Donc, il dit. Il dit même pas un milliard. Il dit là, l'objectif c'est un milliard là sur les prochaines saisons, mais il veut arriver à 1,6 milliard, donc quasiment 2 milliards en 2027. Donc voilà l'ambition.
Non, alors attends.
De Vincent Labrune.
Un beau projet sportif.
Non. Il faut décrypter. Lui.
Non, c'est Daniel, tu connais, non ?
Vincent Labrune, pendant très longtemps, il disait que le milliard, il voulait y arriver là.
C'est ce que je viens de dire.
En 2024. Non, t'as pas dit ça.
Si, j'ai dit ça.
Non, t'as pas dit
ça. Tu racouteras.
Tu l'as pas dit dans cet ordre-là.
Enfin, il est fort celui-là.
Ça va, on vous dérange pas.
Allez, passons.
Non, il le voulait maintenant. Et là, maintenant, comme il s'est rendu compte que ça va peut-être être compliqué de l'avoir, le milliard, il a dit on va plutôt viser 2027 avec mes amis de CVC. Tu auras noté le nombre de fois qu'il a cité CVC ?
Bien sûr.
Ah, c'est genre mes amis de CVC, mes amis qui ont le blé, mes amis qui ont du pognon, mes amis machin, si c'est là. Alors là, il les sert bien comme il faut, CVC. Donc là, maintenant, il a reporté à 2027. Mais combien il y aura en 2024? T'as remarqué qu'il était quand même à chaque fois un petit peu flou dans la réponse.
Que c'était,
qu'il était pas
optimiste.
Complètement,
il optimiste.
Il était pas complètement sûr de ce qu'il allait avoir parce qu'il a bien compris que Canal n'irait plus. Que Canal ne
serait
plus sur le foot.
C'est ouais, un gros problème.
Il l'a dit et c'est un vrai problème parce que moins il y a de concurrence, moins t'auras d'oseille et qu'il essaye effectivement de rencontrer plein de gens. Je sais pas qui peut vendre à part Amazon. Qui sont les acteurs qui peuvent rentrer?
Amazon,
Il rêve d'Apple. Ils rêvent d'Apple.
Ils vont diffuser ça où?
Alors, casque, là, le truc, ils ont sorti, là.
Apple Télé,
ah, oui,
ils vont diffuser le foot.
Oui. Aujourd'hui, il y a un accord avec Canal, par exemple. D'ailleurs, cet accord avec Canal, on l'a déjà dit dans l'after, peut-être qu'il est malin de la part de Canal. Parce que si Apple achète les droits, ça veut dire que sur l'appli Canal, pam, t'as la Ligue 1. Et donc, Canal, en payant zéro, il pourrait récupérer la Ligue 1.
Et quel intérêt Apple aurait
à... Je pense pas qu'Apple va lâcher pour 0 euros à Canal.
Quel intérêt Apple aurait à mettre une énorme somme sur... sur la Ligue 1.
Les abonnements.
Moi, franchement.
Les abonnements, mais je te signale que c'est exactement le pari qu'a fait Mediapro de croire qu'ils allaient avoir beaucoup d'abonnements. Tu sais combien ils ont eu d'abonnements, Amazon? Les chiffres ne sont pas communiqués, mais on sait qu'ils sont très mauvais. Les chiffres d'Amazon.
Oui, alors Amazon, c'est pas si simple, Daniel. On te l'a déjà expliqué mille fois.
Les ventriers, merci, je sais, parce que tu t'abonnes à Amazon pour acheter, j'en sais rien, n'importe quoi, un vélo ou, genre, ou un livre.
Alors attention.
Et en même temps, tu prends mais Amazon Prime.
Amazon, si tu veux, un soir, on fera une spéciale fonctionnement. Non, parce qu'en fait, Amazon, j'ai appris ça récemment par quelqu'un qui travaillait chez Amazon. Ils sont très très forts sur un truc, c'est qu'ils arrivent à pister. À chaque page près, évidemment, chaque abonné. Donc, ils savent si toi qui t'es abonné pour le foot, est-ce que c'est par le foot que t'es arrivé sur le site? Qu'est-ce que t'as acheté sur le site? Ou alors, est-ce que c'est par le site que t'es arrivé au foot? Et donc, derrière, t'as toutes les publicités adressées. Donc, au final, en fait, l'opération Amazon, c'est pas si sûr que ça les arrange pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'ensemble du business et de l'écosystème Amazon, comme dirait notre ami Le Chypre,
Gilbert,
est gagnant.
Je veux bien ton écosystème, mais ça ne changera
mais
pas.
Mais c'est moins le cas avec Apple.
Ça ne changera pas. Deux constats. Le premier, c'est qu'ils n'ont pas eu autant d'abonnés qu'ils le voulaient. Ça, c'est clair et net. Deux, que les audiences ne sont pas bonnes. Et trois, qu'ils n'ont mis pour l'instant que 240 ou 260 millions.
Ils ont fait une affaire.
Exactement, ils l'ont eu pour une bouchée de pain. Et que je ne vois pas pourquoi, puisqu'ils l'ont eu à ce prix-là, d'un coup, ils augmenteraient le prix de 400 millions pour aller à 650. Le vrai problème, ça va être de remplacer Canal et Bein, qu'on fait en sorte qu'on soit à 680.
On aimerait entendre de la part du président de la Ligue une stratégie de valorisation du football français. À valorisation n'est pas égale forcément à oseille. On peut parler d'argent, on peut parler de milliards si ça les intéresse, mais c'est pas ça qu'on a envie de savoir. On a envie de savoir comment c'est possible que sur 40 clubs professionnels, par exemple, il y en ait que deux qui soient rentables, deux qui ont des activités économiques rentables hors transfert, c'est les seuls, Pau et Bastia, même pas, c'est pas Lens, c'est pas le PSG. On aimerait savoir d'où vient ce carambolage et ces échecs à répétition en Coupe d'Europe. On a envie de savoir ça. Et on a envie de savoir qu'est-ce que c'est que ce championnat? Qu'est-ce que c'est que la Ligue 1, en fait? Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on raconte comme histoire quand on est à la Ligue 1?
Ça, ils l'ont fait à l'époque de Mediapro, c'est la Ligue des talents.
Mais non, c'est un slogan,
Daniel. Si tu veux du slogan marketing,
c'est un slogan, Daniel.
Ils l'ont déjà.
On continue le débat, les gars.
C'est un slogan, c'est pas ça qu'on veut.
On continue le débat dans quelques instants. Ensemble.
On vient de faire une pub il y a deux minutes, on va encore faire ma pub.
Bah oui, mais j'ai des obligations.
Et non, toi, t'en rentres de l'oseille.
Et les obligations, elles te concernent aussi, tu le sais. À tout de suite.
Il y a une levée de bouclier au niveau de l'OCA, de tous les grands clubs européens, qui risquent d'avoir une bulle spéculative et expansionniste d'ailleurs. L'inflation risque d'être terrible. Elle l'est d'ailleurs à l'heure actuelle.
Merci, Ben.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Gilbert Brisbois.
22h53, on parle du milliard de Vincent Labrune avec Daniel Riolo, Thibault Leplat, avec vous tous au 32-16. Est-ce qu'il nous prend pour des gogos en nous annonçant des sommes que l'on n'arrivera jamais à, que la Liga n'arrivera jamais à récupérer en droit de télé? On va accueillir Patrick tout de suite qui va donner son point de vue. Patrick, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Thibault, vous m'entendez bien?
Très bien.
Je te préviens tout de suite, le meilleur sujet de la soirée sera dans C'était pas dans l'after. Demain matin en podcast.
Voilà, ok, bon, ça marche.
Rien d'enregistré, c'est pour ça qu'il dit ça. Patrick, donc toi, tu t'y crois au milliard ou il nous fait une danse du ventre, Vincent Labrune?
Ah, mais clairement, il fait une danse du ventre. Juste avant, je voudrais dire un tout petit truc. C'est assez hallucinant. J'ai envoyé un message sur Direct Studio parce que ce sujet m'agace. Et j'ai été rappelé en quelques minutes, je suppose, par Max, que je remercie, qui a été très, très sympa.
Max est très sympa.
Mais Max est sympa. Max est sympa. On dirait pas comme ça, mais il est supporter nantais et sympa. Bon,
quand il est là, parce qu'il a tendance à quitter son poste un peu souvent. Non, il se fait rappeler à Laurent.
Alors en fait, moi j'avais fait. Je veux répondre à la question en trois points si c'est possible. Le premier, c'est la question des lots et de l'organisation. Je vais faire court. Je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi, mais la télé, la radio, c'est des rendez-vous quotidiens ou hebdomadaires qu'on noue avec le téléspectateur. Et la Ligue 1, depuis 20 ans, avait créé un rendez-vous le dimanche soir, le samedi après-midi à 17h ou le vendredi soir, quel que soit l'opérateur. Et en fait, aujourd'hui, ça a totalement été cassé avec la répartition qui a été faite sur le cycle 2020-2024, où en fait, on se rend compte que je parle sous votre contrôle, le meilleur match peut être tantôt le vendredi à 20h45, ou le samedi à 17h, ou le samedi à 21h, ou le dimanche à 21h.
C'est vrai, tu as cassé le rendez-vous, parce que souvent.
Ça fait longtemps que le téléspectateur ou le consommateur ou l'abonné n'est pas du tout la priorité de la programmation de Ligue 1 et de la mise en valeur de la Ligue 1. Mais à chaque fois, c'est le proposer. Mais c'est le gros problème. Et je l'ai déjà dit l'année dernière, dans l'affaire Media Pro. À chaque fois, ce qui est premier, c'est combien on va mettre d'oseille. Est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui sera capable de surpayer ce championnat? Et si on fait 3 abonnements, 4 abonnements, qu'il faut s'abonner à 12 000 plateformes pour pouvoir regarder un match.
En fait, pourquoi?
C'est le cadet du souci de la Ligue. Alors que c'est dramatique. Pour moi, je trouve
parce
ça dramatique.
Que la plupart des gens ne regardent pas tous les matchs. Nous, on regarde tous les matchs parce que c'est notre métier. Mais quand le dimanche soir en prime time, sur prime, justement à 20h45, tu as Marseille 3, je pense pas qu'un supporter de l'OM ou de Lyon regarde ce match-là.
Parce qu'il y avait que Marseille à 20h. À chaque fois, les
alors que quand tu mettais la grosse affiche et que tu avais effectivement, il y a toujours les 10 fameuses grosses affiches, mais le reste cette année, comme dit Patrick, ça a vachement été dilué. Ce qui fait qu'on a perdu cette notion de grosse affiche. On a perdu également en visibilité le samedi parce que même Canal le met sur des chaînes annexes. Donc le championnat a perdu en visibilité.
C'est eux qui proposent l'appel d'offres. Ça.
Mais simplement parce qu'ils avaient personne. Ils ont été obligés de se résoudre à accepter toutes les conditions parce qu'il y avait personne. Donc on est dans une consommation qui est beaucoup plus individualisée où chacun choisit un petit peu à la carte son match. Et c'est aussi pour ça que les audiences n'ont pas été bonnes. Quand j'essayais d'expliquer à Gilbert tout à l'heure que Prime... Auxerre Marseille ou t'as vu le nombre de fois où sur la fin de saison on a eu Marseille équipe en bois. Mais toi tu regardes, nous on a regardé, mais la plupart des gens ils regardent pas, à part les supporters de l'OM et de la petite équipe en question. Et encore s'ils sont abonnés à Prime, il y en a pas des masses. Donc cette histoire de milliards, alors que les droits baissent un petit peu partout en Europe. Vincent Labrune, il essaye de nous faire croire qu'il va passer de 680 à 1 milliard.
Non, mais Vincent Labrune, il parle.
Et il essaye de t'y faire croire en disant qu'il va.
635 millions.
En disant qu'il va miser sur les droits internationaux. En disant qu'il va miser sur les droits internationaux parce que les droits internationaux, ils sont à 80 et il veut les faire passer à 200.
Et les gens, ils vont acheter le droit de Ligue 1 où c'est toujours le même. Il n'y a que le PSG qui gagne, le PSG qui est champion et il n'y a pas de concurrence.
Mais non.
Les gens, ils vont acheter. Tu crois que les Allemands, les Espagnols, les Italiens, les Américains, ils vont acheter les droits internationaux de la Ligue 1.
Mais pire que ça, puisque le PSG n'a. Puisque le PSG n'a plus Messi,
on arrive, Patrick, t'inquiète,
risque de ne plus avoir Neymar, alors que c'était eux les produits d'appel pour le consommateur étranger qui se dit bah tiens, il y a un match français.
Il faut lire.
Oh, il y a Messi, je vais regarder.
Dans The Athletic, je conseille les gens de lire une interview de Richard Scudamore, qui était l'ancien PDG.
L'ancien patron de la Première Ligue.
De la Première Ligue, qui a un peu créé ce qu'est la Première Ligue actuelle, qui a la retraite maintenant, qui explique très bien son métier. Et je vais te dire, on est à des années-lumière de Vincent Labrune.
Ah oui.
Qui te parle de stratégie, de lutte d'influence entre les clubs. Comment tu fais pour toi valoriser ta Ligue 1? Une de ces idées phares, c'est que on veut acheter qu'un produit qui est intéressant à acheter, à savoir qu'est-ce que c'est qu'un championnat intéressant. C'est un championnat où tout le monde peut battre tout le monde. C'est pas juste un championnat où t'as deux types qui se tirent la bourre et les autres qui essaient de gratter un peu quelques places en conférence league. Non, c'est pas ça.
Patrick, à toi.
Merci, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça rejoint les analyses de Stéphane, de Daniel, de Wahid Acherchour et d'autres sur ce sujet. Je vais prendre le lien qui est fait concernant les fonds. C'était mon deuxième point. 500 millions ou 80 millions. Pourquoi je dis 80 millions? Parce que quand vous faites un petit calcul rapide, au regard de l'indice UEFA, quand vous regardez le championnat néerlandais, qui est sixième de mémoire, leur droit est d'à peu près de 80 millions d'euros. Donc comment vous m'expliquez que le championnat néerlandais, il y a 80 millions, et comment vous allez aller voir, je vais être caricatural, Maxime Saada, Alex Green, Hervé Bérou, et tous les patrons de chaîne en disant bah, « Bonjour les gars, nous c'est 500 millions, ou voire même plus, parce qu'ils veulent 800 millions uniquement sur les droits nationaux, c'est pas possible ». Et j'invite tout le monde, quelqu'un vous connaissez, Pierre Maes, qui a publié La Ruine du football français, et qui le dit très justement, 500 millions, c'est le grand max. Canal n'a jamais réussi à rentabiliser la Ligue 1 quand elle valait 600 millions d'euros, c'est ce qu'ils avaient acheté entre 2005 et 2008.
Je précise.
De 500 millions paraît totalement seul. Et le troisième et dernier point, après je vous laisse parce qu'il est bientôt 23h, vous allez peut-être changer de sujet, c'était finalement le timing et les opérateurs. Le timing est hors sol. Pourquoi ? Parce que l'UEFA a fait un appel d'offres sur la Ligue des Champions il y a un an, où la tendance économique était certes pourrie, mais moins pourrie que maintenant. Il aurait fallu que la LFP s'intègre immédiatement après l'UEFA pour lancer un appel d'offres. Et je me souviens de votre ancien boss, si je me trompe pas, Alain Veil, qui, lors du cycle 2024, avait dit en 2018 à la Ligue qu'il fallait pas lancer l'appel d'offres trop tôt parce que les chaînes n'avaient pas d'argent. Là, on se retrouve dans la situation contraire où les chaînes de télévision auraient pu financer le championnat il y a 12 ou 18 mois, mais maintenant, ça semble extrêmement compliqué. Et quand on voit que, et vous l'avez dit tout à l'heure, Apple a déjà signé avec Canal+, j'ai appelé à des problèmes économiques, Bein Sports ne gagne pas un euro, les pertes de Bein sont abyssales, c'est plus d'un milliard, que Canal a quasiment 10 millions et demi d'abonnés en France métropolitaine et en Outre-mer, sans le top 10, les buts de la Ligue 1 en clair et le match du samedi à 17h, le choix 2, moi je vois pas très bien comment la Ligue peut avoir plus de 500 millions. Ouais. Et oui, Vincent Labrune fait une danse du vent.
Patrick, je trouve que tu maîtrises le dossier à merveille, bravo.
Merci beaucoup, c'est gentil.
Mais surtout, il faut préciser que si on parle d'oseille et si on parle de ce problème-là et de ce qui peut intervenir au moment de l'appel d'offres de cet automne, c'est pour ceux qui trouveraient que c'est un peu abstrait, c'est que c'est juste l'argent qui va aller dans les caisses des clubs. C'est la qualité de notre championnat, parce que déjà qu'avec beaucoup d'argent, parce que nos clubs ont de l'argent, on se fait taper en Coupe d'Europe contre des équipes en bois. Qu'est-ce que ça va être si on en a moins?
Et plus la Ligue 1 coûte cher, plus on se fait taper en Coupe d'Europe. Donc il y a quand même un problème.
Ouais.
Dans un instant, Karim Benzema au programme. 200 millions d'euros pour 3 ans de contrat. Est-ce totalement indécent? Est-ce que vous comprenez son choix? Lui qui était quand même dans un club extraordinaire, avec des performances extraordinaires. On en débat ensemble, sans oublier le reste de l'actu du jour, notamment Mercato. D'ici à minuit dans l'After, à tout de suite.
RMC, l'After Foot.